les meules.
Vous nous réservez 5 minutes de quelques questions après.
Oui, oui.
Mais si, parce que ça...
De toute façon, vous avez toute votre vie pour poser des questions sur l'Apocalypse. Voilà, alors... S'il vous plaît... Donc je vais vous montrer que toute l'économie divine est centrée sur l'agneau et que c'est par au fond le mystère de la croix et que c'est la croix qui nous ouvre notre prédestination. C'est ça l'agneau qui ouvre les sept sceaux. Et vous voyez que notre prédestination s'accomplit à travers toute notre patte humaine, y compris à travers les conséquences même de nos actes. Vous voyez, quand tout est sans dessus-dessous, que le soleil est noir, il nous faut consentir et croire dans l'espérance que nous sommes appelés à être vivants même quand le soleil est noir. Vous voyez, hein? Et quand les îles ne sont plus à leur place. Vous voyez tout ce que ça veut dire. Et je vous montrais aussi qu'alors les trompettes exprime la réalisation de cette prédestination. Je ne vais peut-être pas m'appesantir sur les trompettes, mais pour vous montrer que cette réalisation, elle aussi, passe par, j'allais dire, le produit de l'agir humain. Hein, vous voyez, ce que nous faisons, Dieu ne nous déresponsabilise jamais. Donc Dieu nous conduit aussi à travers nos œuvres, bonnes ou monstrueuses. Et vous avez des choses monstrueuses. Hein. Vous voyez, par exemple, dans la cinquième ou la sixième trompette, c'est des réalités invraisemblables. Vous voyez, ouais, des chevaux avec leurs cavaliers qui portent des cuirasses de feu, d'hyacinthe, de soufre, les cheveux, leur tête est comme celle des lions, leur bouche crache du feu, de la fumée, du soufre. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose de... Et au milieu de cette réalisation, il y a un moment extrêmement important, les chapitres 10 et 11. Vous avez vu d'ailleurs dans ce livre de...
Pour chacun de nous, à un moment donné, le temps est passé. C'est l'heure du passage du soleil. Le père, notre perdition. L'homme se perd.
Comme l'ange déchu s'est perdu. Par refus du primat de l'amour. Hein, c'est l'orgueil qui ne comprend pas l'amour, qui refuse le primat de l'amour. Et là, on voit que celui qui a le pied sur la mer et sur la terre a tous les attributs du Christ. L'ange veut dire envoyé. Ça peut dire que l'ange, vous voyez, c'est un envoyé. Cet envoyé peut être Marie, peut être Jésus, peut être un ange aussi. Et là, on voit que celui qui donne le petit livre à Jean, c'est le Christ. On pourrait dire qu'il y a comme une annonciation, un secret qui est fait à Jean, que Jean doit garder pour lui. J'aime à penser que c'est cette demande qui est faite à Jean de faire quelque chose qui est quasi impossible, c'est d'écrire l'évangile de l'amour, qui est son évangile. Et ce petit livre va être le livre le plus précieux qui va accompagner l'Église comme son, pourrait dire, son carnet de route, si j'ose dire, hein, qui nous donne le mystère du Christ dans toute sa profondeur, pour que l'Église puisse vivre sa mission d'amour pour tous les hommes jusqu'au bout. Donc, l'évangile de Jean est l'évangile des évangiles. C'est en lui que tous les évangiles et toute la révélation sont en quelque sorte explicité dans leur profondeur. C'est l'évangile des profondeurs. Toute la révélation est en vue de connaître en fait le mystère de la Trinité, comme nous le donne le prologue, et le cœur du Christ. Hein. C'est le mystère de l'amour. Donc c'est pour ça que ce petit livre, tiens, mange-le, et c'est comme ça qu'il faut vivre La foi, c'est manger la parole de Dieu, hein, en s'en nourrir. Hein. Et on voit que cette parole est à la fois douce comme du miel, parce que c'est une révélation d'amour, et amère aux entrailles, parce qu'elle implique l'épreuve et le mystère de la croix. Et ce combat. Donc, il y a à la fois douceur et amertume. Tant qu'on est sur terre, il y a ces deux choses inséparables. Ce qui est premier, c'est la douceur. Mais quand on est dans la lutte, ben, il y a de l'amertume. Le mot amertume, amer, peut-être pas toujours. Enfin, il faudrait regarder. L'amertume, enfin, c'est pas l'amertume du cœur. Vous voyez, être amer, ça, c'est une situation mauvaise. Mais amer dans le sens. Oui, éprouvant, vous voyez ce que je veux dire, hein, dans ce sens-là. Et le fruit de cette communication ultime de la révélation qu'est l'évangile de Jean fait, et alors, donne une nouvelle mission à Jean, et alors il me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur une foule de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est-à-dire, c'est comme s'il fallait qu'il y ait une annonce dans une profondeur nouvelle et dans une force nouvelle et dans un témoignage encore plus convaincant pour toutes les nations, afin que tous puissent recevoir le don du Père, c'est-à-dire se laisser sauver. Et c'est là que nous avons, au chapitre 11, les deux témoins. Vous avez aussi vu cette tapisserie avec les deux témoins, vous vous rappelez ? C'est dans la troisième pièce. Hein. Ces deux témoins, mais qui mesurent le temple de Dieu, vous vous rappelez, avec Jean avec le fuseau, là, hein. Vous n'avez pas vu ça? Ouais, il y avait beaucoup d'images. Alors, vous voyez, c'est... Et ces deux témoins représentent en quelque sorte les deux piliers qui structurent l'annonce de l'évangile. Ces deux témoins, on les attribue de Moïse et d'Élie. Vous voyez, c'est les deux témoins d'ailleurs du Christ au Tabor. Hein. Un peu au Tabor, il y avait Moïse et Élie. Hein. Moïse, le législateur, et la législation nouvelle, c'est la législation de l'amour qui nous est donnée par l'Eucharistie. Et Élie, qui est le prophète par excellence, et qui nous donne peut-être la veine prophétique la plus grande, puisque la reine des prophètes, c'est Marie. Hein. Donc, vous voyez, si vous vous rappelez le testament que nous a laissé Saint Jean-Paul II pour entrer dans le troisième millénaire, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il a donné? Un nouveau rosaire. Donc, il nous a redonné le rosaire et il nous a redonné l'Eucharistie. Vous vous rappelez de l'encyclique sur l'Eucharistie de Jean-Paul II? Voilà. Ça, c'est les deux piliers, si vous voulez, de vie. Les deux, la femme qui vit l'amour et le don de l'amour qu'est l'Eucharistie. Voilà. Et vous voyez que ce témoignage des deux témoins est à la fois invincible jusqu'au jour où Dieu permet, quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincra et les tuer. Vous avez vu sur les tapisseries, les deux témoins morts. C'est toujours éprouvant quand on voit les deux témoins morts. On se dit, mais alors, quoi? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? La terre entière se réjouit. Vous avez vu comme ils se donnaient les cadeaux, là, hein? Vous vous rappelez? Les habitants de la terre, alors dans l'Apocalypse, les habitants de la terre, ce n'est pas simplement l'homme qui habite la terre. Ceux qui font de la terre l'horizon de leur vie. Ceux qui vivent pour la terre. Donc tout messianisme temporel, tout salut qui ne se voit que dans la pure amélioration ou enrichissement de la condition humaine terrestre. Ce sont des impostures. Ah oui, c'est une imposture, parce que si c'est ça, qu'est-ce qui reste de ça? Rien. La mort. Oui. De notre condition terrestre, il ne restera rien. Si je mets tout là-dedans, ben, je pourrais, on entendra malheur, malheur, malheur. Il y aura trois malheurs pour les habitants de la Terre, parce que si je ne lâche pas ça, ce qui va se passer dans l'économie divine est un grand malheur pour moi. Parce que ces idoles vont disparaître. Donc il sera dans le vide. Hein ? Ça s'appelle se perdre. C'est ça ? Et alors ce qui est beau, c'est que, alors vous voyez, les habitants de la terre s'en réjouissent, s'en félicitent de la mort des deux témoins, échangent des présents, car ces deux prophètes leur avaient causé bien des tourments. Ça les avait dérangés, vous comprenez. Mais passé les trois jours et demi, un temps, deux temps et un demi-temps, c'est une mesure qu'on retrouve tout au long de l'Écriture, Dieu leur infuse un souffle de vie et qu'il les remis sur pied. Donc il y a un mystère de résurrection. On paraît vaincu, mais c'est toujours pour ressusciter, pour celui qui espère. Vous voyez ça, hein ? Ah, ça veut dire, les deux témoins mis à mort, ça ne veut pas dire seulement mis à mort sanglant. Ça veut dire, leur témoignage est comme détruit. Hein ? Un témoin mort, c'est un témoin qui n'agit plus, qui est neutralisé. Vous voyez, c'est ça. Il faut pas, c'est exprimé sous un mode guerrier, mais ça exprime autre chose. Quand les témoins sont mis à mort, ça veut dire qu'ils sont neutralisés. C'est-à-dire que leur parole ne vaut plus rien, qu'on ne les écoute plus, qu'ils ne peuvent plus. Enfin, vous voyez, ça peut prendre beaucoup de formes. Et après, en quelque sorte, il y a ce mystère de résurrection, grand effroi de ceux qui les regardaient. Et alors, on les voit monter au ciel. Et c'est un moment très important parce qu'on voit que, au-delà de cette défaite apparente, comme le Christ a été apparemment vaincu à la croix, mais en fait, il est victorieux, de même, nous sommes appelés à vivre la même chose. Comme une défaite apparente, en vue de la victoire vraie, c'est-à-dire la victoire de l'espérance, hein, de la grande espérance, comme disait Benoît XVI. Et alors, à cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, le dixième de la ville croula, et dans le cataclysme périrent 7000 personnes. Les survivants, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu du ciel. Et ça, si les survivants qui d'abord se réjouissaient voient ça maintenant, ça veut dire que le témoignage des deux témoins est fécond. Vous comprenez ça? Et vous voyez que l'ébranlement qui se passe là, au moment où ils montent au ciel, ça ressemble à quoi? Ça vous fait penser à quoi? Eh bien, ce qui se passe à la mort du Christ. Le tremblement de terre et tout ça. Vous avez exactement la même chose que ce qui s'est passé à Jérusalem. Voilà, après arrive la septième trompette, et cette trompette nous ouvre alors, on est au cœur maintenant, au centre de cette révélation qui va nous donner la clé de cette lutte, au chapitre 12. Hein, c'est ce chapitre 12 que liturgiquement nous entendons le 15 août, hein, comme la première lecture de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Hein, et qui nous donne en fait le sens profond des luttes, c'est ce face-à-face entre la femme, mais ce n'est pas simplement la femme qui est enceinte, qui est mère, bien sûr elle a le soleil qui l'enveloppe, la lune sous ses pieds, 12 étoiles couronnent sa tête, je n'ai pas le temps de regarder tout en détail, hein, mais elle est enceinte, donc elle est mère, et elle est mère, pas seulement mère, mais elle est au terme de sa maternité, c'est-à-dire dans les douleurs de l'enfantement. Parce que toute maternité est en vue d'un enfantement, c'est en vue d'une mise au monde. Donc vous voyez, c'est la fécondité aboutie. Hein, c'est pas seulement d'être mère. Dans les douleurs de l'enfantement. Et au fond, c'est la grande vocation de l'Église. Que Marie a vécu la première, et que l'Église est appelée à vivre, et que nous, dans notre sacerdoce royal, nous sommes appelés à vivre. Nous sommes appelés à être une femme mère dans les douleurs de l'enfantement afin que le Christ soit mis au monde dans les cœurs. Vous comprenez ça? C'est ça, profondément, hein, qu'il naisse dans les cœurs. C'est notre vocation, ça. C'est ça, communiquer le Christ aux autres. Et c'est là. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de pire ennemi qu'entre le dragon et le mystère de la femme. Vous avez vu que le pape François a dit que l'Église devait reprendre à frais nouveau la recherche de ce que, du mystère de la femme, en disant qu'on n'est pas encore allé au bout d'une saisie en profondeur du mystère de la femme. Parce qu'on voit bien que toute la sagesse de l'œuvre de Dieu ne peut se saisir que si l'on scrute le mystère de la femme, puisque la femme n'existe que parce que l'homme a pour vocation le fait d'aimer. C'est pour ça que Dieu dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Or, l'amour ne se met pas en équation, ne se mesure pas, ne se pèse pas, ne se prouve pas. C'est une réalité, c'est la réalité la plus profonde, dont la femme est la créature qui lui est entièrement dévolue. Elle est servante du mystère de l'amour. C'est beau. On dit servante, personne ne veut être servante, mais du mystère de l'amour. Donc, vous voyez, il y a un paradoxe. Hein, comme Marie dira, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et donc, le pape a enjoint l'Église de creuser le mystère de la femme et il a éclairé l'Église elle-même par le mystère de la femme. Et que c'est contre la femme que le démon a la haine la plus grande. Parce que c'est elle qui est au cœur de cette exigence profonde de l'amour qui demande de saisir toute notre vie, de saisir notre personne et de devenir la vraie finalité de notre personne. Et que la femme manifeste emblématiquement quand elle porte l'enfant pour le mettre au monde. Elle porte un autre par amour pour l'autre, comme fruit de l'amour. Oui, elle est tout à fait, elle est totalement engagée dans le labeur de l'amour. Ça va ? Et à ce sujet-là, après, vous avez, à partir du verset 7 du chapitre 12, tout un éclairage sur le combat premier, l'opposition qu'il y a entre les anges, le dragon et Saint-Michel. Hein, c'est Saint-Michel, c'est pas qu'une mythologie. Et des anges, Saint-Michel et les anges. Parce que c'est pour ça que Saint-Michel est... le défenseur de l'Église, et c'est lui qui dit « Qui est comme Dieu ?» Ça veut dire « Qui peut discuter ce que Dieu veut faire ? Qui comprend Dieu pour mesurer, c'est-à-dire accepter ou non ce qu'il fait ?» Dieu est amour, donc vous voyez, nous ne pourrons jamais comprendre Dieu. Hein, nos frères orientaux ont très fort ce sens, ça s'appelle l'apophatisme, hein, c'est-à-dire « Je ne peux pas comprendre au sens fort ce mystère de l'amour. Il me dépasse. » Donc, en quelque sorte, l'obscurité de l'amour me dit presque plus sur le mystère de l'amour que si j'essaye de le préciser, ou je ne risquerai que de le diminuer. Donc, en fait, l'épreuve des anges, c'est de refuser que la création, l'œuvre de la création, soit une œuvre du primat de l'amour. Donc, c'est pour ça qu'elle est ordonnée à l'homme et dans l'humanité, que la femme y joue le rôle absolument clé. C'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, la femme passe devant l'homme. Vous comprenez ça ? C'est la seule religion où la femme passe devant l'homme. C'est curieux, ça, hein ? Dans les autres religions, à la limite, c'est plutôt les femmes qui sont prêtres et intermédiaires entre la divinité et l'humanité, hein, les prostituées sacrées et compagnie. Et puis, c'est les hommes qui font fonctionner la religion. Tandis que dans le christianisme, on ne peut pas dire que ce soit les hommes qui font fonctionner la religion. Hein ? Ce ne sont pas les hommes qui sont majoritaires dans les assemblées. D'accord ? Donc on voit que cette lutte qui est dans le ciel, c'est-à-dire face au dessein de Dieu, se porte sur la terre, parce que dans la création de l'homme, Dieu accomplit ce désir qu'une créature soit associée, comme il est impossible de l'être plus, à ce mystère de l'amour, c'est-à-dire le vivre dans la responsabilité. vienne l'incarner. Et spécialement, d'une façon très emblématique, dans la maternité et la paternité, parce que c'est une incarnation de la responsabilité de l'amour incroyable. C'est d'ailleurs aussi pour cela que c'est un des lieux les plus fragiles. Hein. Vous avez vu, notre pape a parlé de la paternité mercredi dernier, hein, et la semaine d'avant, c'était les mères. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle, mais elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert, jusqu'au refuge, où loin du serpent, elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Oui, elle va au désert. Elle n'est plus dans le monde. Vous voyez, quand le pape lutte contre la mondanité, vous comprenez ça? L'Église, ce n'est pas la mondanité. C'est justement pas le monde dans le sens de ce qui existe, de l'humanité dans le monde. C'est une manière d'être qui est en fait du diable. Saint Jean dit dans la première épître, le monde entier gît au pouvoir du démon, le prince de ce monde. Hein. C'est une manière d'être homme qui fait de la terre ma vocation. C'est pour ça que la femme, elle reçoit les deux ailes du grand aigle, alors quelles sont ses ailes? C'est l'adoration et la contemplation, ça peut être la foi et la charité à travers laquelle nous vivons la grande espérance, etc., pour être au désert. Comme les premiers moines se sont mis au désert, parce que à partir du moment où la religion chrétienne n'est plus persécutée, le grand risque, c'est que la foi chrétienne finisse par se mélanger au monde, comme ça a déjà été pour Israël, qu'Israël finisse par s'assimiler totalement au pays qui était autour d'eux, et donc il n'y aurait plus personne dans l'humanité qui soit les porteurs du don de Dieu. Vous comprenez ça? C'est pour ça que c'est très important. Et que notre lieu, c'est le désert. C'est un désert intérieur. C'est un désert qui nous fait vivre les choses théologalement. Devenir vivant de la foi, de la charité, dans la grande espérance. C'est regarder les choses comme ça. Pas selon ça rapporte combien, ça vaut la peine, ça coûte combien, c'est plaisant, j'en ai envie, j'ai besoin, ça me fait plaisir ou pas. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est comme ça qu'on vit spontanément. Mais ça ne tient pas. Hein. Vous comprenez ça? Et puis après, tout le chapitre 13 va nous montrer cette extraordinaire séduction qu'exerce le dragon sur l'humanité, où les hommes vont être utilisés par le dragon pour détourner l'humanité entière du Christ et l'orienter vers un faux messianisme, c'est-à-dire un avenir terrestre. Ce n'est pas le salut tel que nous donne la foi. Hein ? On pourrait dire selon la conception de Judas. Judas, il veut du bien pour l'humanité, mais il veut un bien temporel. Il veut Judas. Judas a trouvé que Jésus avait plein de qualités. Il a dit, celui-là, non, mais il veut se sacrifier. Mais enfin, quel gâchis, c'est pas comme ça qu'on... Non, franchement, c'est pas comme ça qu'on va préparer l'avenir. Je vais le pousser. Il va être condamné et devant la mort, il va montrer toute sa puissance et on verra bien qu'avec Jésus, on a tout ce qu'il faut pour avoir l'avenir devant nous. Il fait du pain avec rien. Hein, il suffit de mettre du pain au départ, avec ça, vous devenez milliardaire. Hein, il n'y a pas besoin de cultiver rien. Il vous donne ça et puis ça pue. Donc, si on a un boulanger gratuit, enfin, il ferait tout comme ça. Puis une fois par an, dans notre vie, on irait visiter Monsieur Jésus à Jérusalem. Hein. Puis voilà, il serait là à nous faire vivre sur terre. Ben, si c'était comme ça, nous serions les plus à plaindre des créatures. Nous serions comme des cochons d'Inde avec plein de carottes à manger. Voilà. Si c'est ça notre béatitude, merci. Ben, c'est pas ça l'être humain. C'est pour ça que notre vie, c'est plus élaboré que ça. Et aussi, c'est plus exigeant que cela. Donc ce serait intéressant de voir ce que représente la bête de la mer, la bête de la terre, vous vous rappelez. La bête de la mer, on pourrait dire que ça représente, vous voyez, toutes les idéologies. Comment notre intelligence peut quitter le réel et faire que l'homme se construit ce qu'il est. Hein, c'est, il pense la tour de Babel, et il l'a fait. Ça, c'est la bête de la terre, c'est la réalisation de toutes les idéologies. C'est des idéologies de construction qui ne sont pas du tout le dessein de sagesse de Dieu sur l'humanité. Vous comprenez ça, hein? Pour dire très rapidement, mais que c'est un grand succès. L'évangile, enfin, l'Apocalypse nous montre que c'est un très grand succès, puisque la terre entière adore. Hein? Elle établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête dont la plaie mortelle fut guérie. C'est comme un simulacre de résurrection. C'est comme un simulacre de salut. C'est l'homme qui croit qu'il est capable de tout, que tout est possible. Il pense que par Chopin, la science, tout est possible. Je ne sais pas si on pense encore autant. Hein? Mais sans le savoir, oui. Et puis aussi, une mise de côté énorme de ceux qui n'entrent pas dans cette logique. Hein? Ceux qui ne sont pas marqués au front, c'est-à-dire la pensée, hein, la volonté et la main. Ceux qui ne pensent pas et ne font pas comme tout le monde, eh bien, sont marqués et nul ne pourra rien acheter ni vendre. Donc vous voyez, ça ne va pas être trop drôle. Vous êtes exclus du fonctionnement du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes... Hein? Ça, le chrétien, il faut qu'il accepte d'être ostracisé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une incompréhension absolue entre ce que me dit la foi et ce projet fou qui n'a pas d'avenir, mais qui est séduisant, où l'homme se fait lui-même et se construit son avenir. L'homme sauveur de l'homme. Saint Jean-Paul II disait en 80 à Notre-Dame de Paris, quand il était en France, que nous sommes devant une méta-tentation, une super-tentation, la tentation par excellence. L'homme se fait le sauveur de l'homme. Mais c'est un leurre. Alors après, vous voyez, on voit bien l'enjeu, la clé de la lutte, hein, la femme, le dragon, et toute cette humanité que le dragon va essayer de mettre de son côté. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mystère de la femme, à la fois on prétend la libérer, mais en la prétend la libérer, on obscurcit de plus en plus son mystère profond et sa vocation. La femme est-elle vraiment plus libre qu'elle ne fut? Hein? C'est intéressant de savoir. La contraception était censée libérer la femme. De quoi? De l'homme? Certainement pas. De la maternité? Alors vous voyez, hein, c'est une curieuse libération sur laquelle il faut bien réfléchir. Je vous donne un petit gaïa, mais pour tout, vous pourrez creuser ça. Hein. C'est extrêmement pratique. Hein. Au chapitre 14, vous avez donc... Après nouveau l'agneau, hein, je vous ai dit que tout est porté par l'agneau. Et nous retrouvons les 144 milliers. Vous rappelez ce que vous avez, 144 000 et la foule immense. Ces 144 milliers portent inscrit sur le front le nom, son nom, le nom de l'agneau et le nom de son père. Ça veut dire le front, c'est le lieu de la volonté, qui est marqué par le nom de l'agneau et de son père, c'est-à-dire du mystère de l'amour dans sa plénitude et dans sa pleine vérité. Parce que l'agneau, quand il offre sa vie, il accomplit pleinement la volonté de son père. À la croix, je vois tout l'amour du Fils pour le Père et tout l'amour du Père pour les hommes à travers son Fils. Donc c'est la grande lumière. C'est pour ça que j'ai ça sur le front. Je n'ai pas euro, dollar ou je ne sais pas quoi sur le front, vous voyez. Ou, je ne sais pas ce qu'on mettrait, un code barre. Hein. Le chiffre de la bête, hein, le chiffre d'homme, 6, 6, 6, hein, vous voyez que ce sont les trois dimensions de l'homme qui ne sont pas achevées. Ça veut dire que c'est un homme sans transcendance. C'est le 7, la dimension religieuse de l'homme. Hein? Donc vous voyez, c'est un homme sur lesquels le ciel a été fermé. C'est un homme pour lequel la transcendance est fermée. C'est un homme enfermé finalement dans son conditionnement. C'est un homme psychique, comme dirait saint Paul. Hein, l'homme psychique. Et alors c'est très beau que ses compagnons, ces 144 000, ils suivent l'agneau partout où il va. Eh bien, si le concile a eu lieu, c'est pour que elle soit vivante de ce mystère des compagnons de l'agneau. Parce que s'ils suivent l'agneau partout où il va, c'est eux, en fait, qui sont les intimes de l'agneau. Si vous suivez l'agneau partout où il va, c'est comme l'épouse qui est toujours unie à son époux. Donc, qui coopère, quoi qu'il arrive et à travers tout, au dessein d'amour du Christ crucifié et glorifié. Vous comprenez ça? C'est ça l'Église renouvelée. C'est ça l'Église vivante. Le Concile Vatican II était pour ça. S'il a beaucoup parlé du sacerdoce royal des fidèles, c'est ça. C'est ce mystère des compagnons de l'agneau, des 144 000, qui vont coopérer à la fécondité. Vous avez un très beau lieu qui vous explique ça dans l'évangile de Saint Jean, c'est la Samaritaine. Vous rappelez qu'une fois que les apôtres reviennent, quand ils ont acheté ce qu'il fallait pour manger, ils arrivent là et Jésus dit, regardez, levez les yeux, la moisson est mûre. Déjà, le moissonneur touche son salaire. Qui est le moissonneur qui touche son salaire? C'est Jésus, qui vient de récolter les prémices de la récolte. Cette Samaritaine, elle est la première récolte, les prémices de la récolte. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle va chez les siens, chez ces gars-là, qui n'étaient pas très drôles, et elle leur dit, venez voir. Cette femme a une fécondité apostolique extraordinaire. C'est le premier exemple. Pourtant, elle partait de loin. En vivant le mystère de la résurrection, elle devient porteuse de fécondité pour ses frères. Eh bien, c'est ça l'Église qui devient compagnon de l'agneau. Quand on est prémisse, eh bien, ce qu'elle a reçu du Christ, elle le donne aux autres. Et donc, le Christ vient dans ce village, il reste 2 jours, et beaucoup crurent en lui. Oui, c'est grâce à cette femme. C'est ça devenir, c'est ça le sacerdoce royal. Vous comprenez ça? Voilà. Et c'est pour cela que le jugement selon l'Apocalypse, c'est pas d'abord punir et truquer. Non, c'est pas ça. Quel est ce jugement? Ce sont des récoltes. C'est la fécondité. Toute l'histoire de l'Église, toute l'économie divine est en vue que nous ayons porté la fécondité de l'amour de Dieu qui nous a été communiqué. C'est pour ça que le jugement se fait sous la forme d'une moisson et d'une vendange. Vous voyez, de la moisson à la vendange, tout ce que l'année a pu porter de comme fruit. Et l'on voit que nous coopérons particulièrement à la vendange. Parce que celui qui moissonne radicalement, c'est le Christ. Comme c'est Jésus qui a sauvé la Samaritaine. Mais cette Samaritaine, en quelque sorte, de sa rencontre avec Jésus, on pourrait dire de sa fécondation avec Jésus, vous voyez, donne à tous ces hommes et tous ces habitants de Samarie d'eux-mêmes recevoir le Christ. Et elle porte les fruits du Christ. Vendange. Vous comprenez ça? Donc vous voyez que cette expression symbolique qui est un peu désarçonnante de récolte nous montre bien notre mission profonde. C'est de nous laisser moissonner par le Christ afin de concourir à la vendange. Et c'est une vendange qui est dont, pour le Christ, qui est sans limite, oui, parce que regarde la cuve immense, c'est comme quand vous voulez, vous voyez, vous mettez tout ça plein de raisins, et puis autrefois on mettait des bêtes là pour écraser le raisin, et bien le cheval est là-dedans, et bien ça monte jusqu'au mort, c'est-à-dire si ça monte plus haut, ben le cheval se noie, vous comprenez, donc c'est impossible qu'il y ait plus de jus de raisin, vous voyez, donc une cuve immense. Et l'on voit qu'en fait, c'est, on pourrait dire, le caractère très universel et catholique du salut. Et qu'il n'y a pas de limite du côté de la miséricorde. Et que la fécondité de l'Église est incroyable parce que de la moisson à cette vendange incroyable. c'est le travail de l'Église avec le Christ. Pour que ceci se fasse, il faut arracher l'être humain qui en est comme des huîtres ou des moules accrochées au rocher. C'est comme ça qu'on est accroché à nos convoitises et à nos idoles. C'est tout le sens des sept fléaux et des sept coupes. Pour nous arracher beaucoup de choses qui nous arrivent, qui nous sont pénibles, qui nous sont contraires, visent à nous purifier et nous arracher nos idoles. Vous comprenez ça? Mais on voit bien que c'est laborieux. C'est laborieux. Et que souvent, nous nous en servons pour nous révolter. Au lieu de nous convertir, au lieu de lâcher prise, nous nous révoltons. C'est le grand risque. Et le démon est là pour que nous nous révoltions et qu'on dise, si c'est ça l'amour, eh ben merci. Vous voyez, hein? Après, vous avez toute cette... à partir du chapitre 17, vous avez tout ce regard sur la Babylone, la prostituée fameuse. C'est quoi ça? C'est cette humanité qui est le monde. C'est l'humanité telle que le prince de ce monde l'a construit. C'est une prostituée fameuse. C'est une prostituée, c'est une idéologie, c'est terrible, et qui met à son service des rois, c'est-à-dire le pouvoir, la domination, c'est tout sauf la charité. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, au cours du temps, ça prend des figures différentes. Aujourd'hui, vous pouvez en mettre beaucoup en même temps, hein? De ces rois-là, vous avez, vous prenez Poutine, vous prenez Obama, vous prenez, je ne sais pas quoi, le Chinois, là, je ne sais pas comment il s'appelle, vous prenez l'Arabie, ou je ne sais pas quoi, qui gouverne là-dedans, j'en sais rien, vous prenez enfin, tout ce que vous voulez. C'est utilisé pour le même dessin, même si ça a des étiquettes politiques contraires. Vous savez, hein, c'est un grand théâtre. Donc, c'est des intérêts immédiats différents, mais derrière, c'est la prostituée fameuse. Mais nous sommes appelés vivants à travers ça. Donc, nous devons vivre ça, pâtir ça, mais pour un dessin qui va au-delà, et regarder au-delà, le bout de notre nez, c'est-à-dire si la bourse monte ou descend. C'est pas ça qui nous dit si ça va bien ou si ça va mal, vous comprenez, hein? C'est l'état du cœur de l'homme qui dit si ça va bien ou si ça va mal. C'est pour ça que des fois l'homme va mieux dans des terribles détresses que quand tout va bien, hein? C'est terrible de dire ça, c'est vrai, hein? Alors voyez, cette construction du démon n'a pas d'avenir. Alors vous avez une litanie extraordinaire, hein, au chapitre 18 de l'Apocalypse sur la chute de la Babylone. Tout ce qui pleure sur l'effondrement de la Babylone. Hein? Hélas, immense cité, ô Babylone, cité puissante, car une heure a suffi pour que tu sois jugé. Alors qui pleure? Les rois de la terre, les compagnons de sa vie lascive et fastueuse, hein? Le luxe, le plaisir. Après, les trafiquants de la terre, donc ça c'est trafic, hein, un peu. Même si c'est légal, ça peut être du trafic quand même, hein. Ça va jusqu'à la marchandise humaine, hein, vous voyez, verset 13, hein. Il y a les moutons, les chevaux, les chars, les esclaves et la marchandise humaine, hein. Une manière de faire travailler les gens et de les embaucher, c'est de la marchandise humaine, je les utilise. Hein, ressources humaines, c'est ça, la marchandise humaine. Ressources humaines. Bah, écoutez, c'est un gisement humain. On parle comme ça, mais hein. Gisement d'emploi, comme du charbon. Ensuite, les commerçants, enfin les capitaines et les gens du cabotage, hein, c'est toutes les communications, tout ça. Hein. Voilà. Et puis on voit que tout ça, finalement, ainsi d'un coup, on jettera Babylone la grande, la cité, et on ne la verra jamais plus. Alors chez toi, on n'entendra jamais plus ni la flûte, ni la trompette, ni les artisans de tout métier, ni la voix de la meule, ni la lumière de la lampe, ni la voix du jeune époux. Bref, c'est la mort. En quelque sorte, est révélée au grand jour l'illusion qu'il y a dans cette Babylone, c'est-à-dire que c'est un lieu qui paraît très vivant, excitant, mais qui est en fait, par rapport au mystère de l'homme, c'est la mort. C'est l'âme est morte. Vous comprenez ça? L'homme n'est pas créé pour le commerce. L'esprit du commerce. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du commerce, mais l'esprit du commerce. Vivre pour ça. Vous voyez, par exemple. Il est créé pour aimer. Et alors, bon, j'ai un drame sur la Terre, puisque tout ce qui semblait être l'avenir de l'homme, sa stabilité, sa sécurité, c'est tout ça. C'est pour ça qu'elle nous fait peur, l'Apocalypse, parce que si je suis du Christ, en fait, non. Parce qu'en fait, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas ma vraie vie. C'est pas ma finalité. C'est pour ça que le fait que cette Babylone tombe est une libération. C'est pour ça qu'il est dit, comme pour Lot, vous voyez, sort de Sodome et Gomorre, vous voyez, on les fait sortir avant que ça tombe. On dit, sortez, allez, sortez, mon peuple, quittez-la, cette Babylone, de peur que, solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. Hein ? Chapitre 18, verset 4. Puis ensuite, après la chute de la Babylone, nous voyons, vous voyez, c'est des gros plans de plus en plus forts. En fait, le combat, ce combat, quel est ce combat ? Ça prend un vocabulaire militaire, en fait, c'est un combat spirituel. C'est pour ça qu'on parle des armées du ciel. Les armées du ciel, c'est les armées qui sont gouvernées par le Verbe, c'est-à-dire le Christ. C'est toujours les compagnons de l'agneau, hein, qui sont appelés à mener le combat de l'amour. Ouais, c'est curieux, hein. Ce qui, dans l'Apocalypse, a l'air guerrier, en fait, c'est le combat de l'amour qui se termine par un festin. Alors, vous avez vu, au chapitre 19, verset 17, hein, « Je vis un ange debout dans le soleil. » Alors, vous voyez cet ange debout dans le soleil, vous voyez qui ça peut être. Le soleil, c'est le Christ. L'ange debout dans le soleil, c'est Marie. L'ange debout dans le soleil. Elle est debout dans le soleil. Sa vie, c'est le Christ. C'est ça. Vous comprenez, debout, c'est être vivant. Debout dans le soleil. Ma vie, c'est le Christ. Qui peut dire ma vie, c'est le Christ ? C'est Marie. Hein ? Vous voyez comment le symbole, par exemple, c'est un exemple. Hein, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Crie d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith. Ces oiseaux qui volent au zénith, ça doit être nous. Ce sont des oiseaux qui sont au zénith, c'est-à-dire au plus haut du ciel. C'est ça, être vivant de la foi, de l'amour et de l'espérance. Pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Venez rallier le grand festin de Dieu. Alors vous allez, ce que je vais vous dire va vous dégoûter au premier abord, mais vous allez voir que c'est quelque chose de très beau. Vous y avalerez chair de roi, chair de grand capitaine, chair de héros, chair de cheval, des cavaliers, chair de tout genre, libre, esclave, petit et grand. Il va falloir manger de la chair, c'est-à-dire des cadavres. Ça veut dire des vaincus. C'est quoi le vaincu ? C'est celui qui est finalement vaincu par la foi. Vous comprenez ça ? Être vaincu, c'est finir par croire. Hein ? Vous comprenez ? Celui qui finit par recevoir le Christ est vaincu du côté du monde. Vous comprenez ça ? Et alors, nous sommes appelés à manger cette chair. Ça veut dire quoi ? Incorporer ceux qui étaient initialement totalement égarés, afin qu'ils deviennent, qu'ils soient incorporés dans le corps mystique du Christ. Vous comprenez ça ? C'est une incorporation. C'est-à-dire que tous ces gens qui finalement se laissent quand même sauver par le Christ sont incorporés dans cette humanité nouvelle. Vous comprenez ça ? C'est les rescapés. C'est cette foule immense. Vous voyez, il y a toutes les conditions riches, pauvres, genre de capitaine, tout ce que vous voulez. Manger la chair, c'est notre grand travail, c'est quoi? Incorporer. Vous savez quand le pape dit aller aux périphéries. Les périphéries, c'est tout. Dès qu'on est loin du Christ, c'est une périphérie. C'est une périphérie, les périphéries sociales, mais les périphéries intérieures, vous comprenez ça? Et donc il s'agit de manger de la chair, c'est-à-dire incorporer. Faire entrer dans le corps vivant qu'est l'Église. Mais comme étant les bénéficiaires de l'Église, vous voyez? Pas les membres très actifs, mais des bénéficiaires de l'amour. Vous comprenez? Hein? Les enfanter, les porter. Donc vous voyez la victoire derrière. Et après, vous voyez, au chapitre 20, il y a ces fameuses 1000 années qu'il ne faut pas regarder d'une façon purement temporelle, mais en montrant que dans ce devenir de l'Église, il y a des temps où il y a une... où le mal est comme contenu, afin que l'Église puisse connaître une certaine plénitude. Parce que si elle ne pouvait pas connaître une certaine plénitude, elle ne pourrait pas se connaître elle-même. Et aussi vivre des moments où elle sera comme morte. Parce que s'il dit que les forces du mal ne prévaudront pas contre elle, ça ne veut pas dire que Saint-Pierre de Rome restera toujours debout. Ça ne veut pas dire ça. Hein? Vous comprenez bien. Hein? Ce n'est pas que temporellement, elle va être... Non, elle peut être comme morte, mais vivante, dans son témoignage. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'il faut que notre vie soit très, très divine, c'est-à-dire très intérieure, donc très incarnée. C'est paradoxal, hein, ce que je dis, très divine, donc très incarnée. C'est-à-dire d'espérer contre toute espérance. Rien n'est plus incarné que d'espérer au milieu d'un cadavre. D'être vivant au milieu d'un cadavre, ça c'est plus qu'incarné, vous comprenez ça? Nous aurons peut-être à vivre ça. Parce que vous voyez qu'à la fin, c'est comme à la fin des films, hein, vous voyez, les méchants sont, et les gentils et les méchants sont de plus en plus, je me fais un gros plan sur chacun, et l'on voit qu'est-ce qui reste de l'Église, regardez, au verset 7 du chapitre 20, les 1000 ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis, qu'est-ce qu'ils firent ? Ils investirent le camp des saints. Le camp des saints, c'est l'Église dans ce qu'elle a de vivant. Hein ? On pourrait dire c'est le mystère des 144 000. La cité bien-aimée, ça veut aussi dire que la cité bien-aimée, c'est aussi notre âme, que nous sommes entourés de choses qui, du côté quantitatif, sont ingérables, mais qu'intérieurement, nous sommes en quelque sorte gardés. Vous voyez, la cité des saints, c'est aussi mon âme, vous comprenez ça? C'est l'Église elle-même et c'est aussi l'âme de chacun, l'âme du croyant. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Ces assiégeants aussi nombreux que le sable de la terre. C'est quoi ce feu du ciel qui dévore, à votre avis? Hein? Oui, c'est le Saint-Esprit. C'est une victoire par l'Esprit Saint. C'est pas une bombe atomique. Hein. C'est une victoire par l'Esprit Saint. Comme au début de l'Église, c'est l'Esprit qui a donné à l'Église de naître. De même, c'est l'Esprit qui donne à l'Église d'être victorieuse d'un combat qui, quantitativement, est absolument ingagnable. Vous comprenez ça? D'ailleurs, on le voit de plus en plus. Hein. C'est pour ça que quand on voit qu'on est un petit reste, il ne faut pas s'en étonner. Hein, ce que disait Benoît XVI, je ne vois pas l'avenir comme étant le rétablissement d'une grande chrétienté, tout ça, je vois des îlots extrêmement ardents qui vont porter le monde. Je crois que c'est ce que forme et ce que prépare notre pain. Puis après, le jugement des nations, où tout... Alors, le premier jugé, c'est bien sûr Satan et la bête. Et puis, tous ceux qui ont coopéré à cette œuvre du mal. Et puis après, l'Apocalypse se termine par les chapitres 21 et 22. La cité Jérusalem céleste, qu'il faut pas seulement... Elle est céleste par son origine, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas déjà sur Terre. Elle existe déjà sur Terre, pas totalement accomplie, mais déjà se faisant. C'est l'Église dans son mystère, mais c'est aussi, j'allais dire, l'âme du croyant. Notre cœur de croyant est une Jérusalem nouvelle. Hein, nous sommes une fiancée de l'agneau. Ça m'appelait de devenir fiancée de l'agneau. C'est très beau de voir. Au fond, c'est l'épouse de l'agneau, la fiancée. C'est quand nous sommes ardemment chrétiens, eh bien, c'est comme une ville qui est toute d'or, c'est-à-dire de charité. Il n'y a pas besoin de lumière et tout ce que vous voulez, parce qu'en fait, c'est tout le temps illuminé par l'agneau et par le Père, c'est-à-dire par l'amour, le mystère du Père et le mystère de l'agneau. C'est une vie d'amour, c'est la charité. Et irriguée par ce fleuve qui porte la vie et qui guérit, qui est l'Esprit Saint. Hein, nous vivons par les deux missions des personnes divines, c'est-à-dire le Verbe incarné et le Paraclet. Hein. Nous sommes vivants par l'envoi et le don des deux personnes divines, par le Père, que sont le Verbe fait chair et le Paraclet. Et l'Apocalypse se termine, vous voyez, où on voit que. Vous voyez, c'est très curieux, hein. Ces paroles sont certaines et sont vraies. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques du livre, de ce livre. Donc vous voyez que c'est très important de devenir familier. C'est le carnet de route dans la tempête. Vous voyez ce que je veux dire? Et à la fois, on voit à la fois que malgré l'intensité des luttes, la victoire est déjà présente en germe. Vous voyez ça? C'est un double regard. Hein, et ne tient pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Et l'on voit que tout va s'accélérer. Vous voyez, que le pécheur pêche encore, que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, que le saint se sanctifie encore. Vous voyez, chacun va en quelque sorte aller au bout de sa logique. C'est pour ça que le combat se radicalise. Vous voyez ce que je veux dire ? Voici que mon retour est proche, j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Quel est ce travail? C'est le labeur de la charité, de l'amour, donc de la miséricorde. De la miséricorde. Le pape ne fait que nous dire, écoutez, si vous n'aimez pas, et si moi je n'aime pas, je ne suis pas chrétien, même si je suis pape, même si je suis baptisé, je ne suis pas chrétien. Il fait la chasse à tout ce qui n'est pas chrétien. Mais c'est ça la réforme, vous comprenez? C'est ça la réforme, c'est notre réforme. C'est notre cœur qui se convertit à l'amour, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc à la fois l'espérance et l'amour, vous voyez? Voilà, heureux ceux qui lavent leur robe, ils pourront disposer de l'arbre de vie, pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres, et tout ce qui se plaise à faire le mal. Et puis alors l'Apocalypse se termine par quelque chose de très beau. Je suis la racine de la race de David, l'étoile radieuse du matin. On voit bien qu'il y a une présence de Marie dans l'Apocalypse que je ne peux pas trop vous montrer, mais qui est présente. Et là, c'est très net. Et vous savez que plusieurs fois, à un moment donné, Jean veut adorer un ange, vous rappelez? Vous avez vu ça, en fait, cet ange-là? Non. On voit bien que, si l'on regarde bien, que parmi ces anges qui sont tout le temps présents, on voit que Marie est présente tout au long de cette initiation de Jean au sens profond, finalement, de l'existence même de l'Église. Vous voyez, l'Église n'existe pas pour une raison inerte, elle existe pour une raison dynamique, parce que l'amour implique d'être vivant. Je ne peux pas dire que j'aime si je ne vis pas de l'amour. Vous comprenez ça ? Donc l'Église va être vivante et poussée au sommet de l'amour à travers ce combat acharné pour l'amour. Ce combat va servir en quelque sorte à révéler la plénitude de l'amour. C'est très important de le regarder comme ça, parce que si je le regarde du côté de la justice ou si je le regarde du côté des résultats temporels, je risque fort d'être totalement perdu, hein, d'être désorienté et d'être désespéré. Alors c'est beau. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» que celui qui entend dise « Viens, hein, viens Jésus hein. !» Et que l'homme assoiffé et s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Donc vous voyez, l'Église au fond, et c'est très typique de la réforme liturgique, les références à la venue glorieuse du Christ sont beaucoup plus explicites que précédemment, notamment dans l'embolisme du Notre Père, dans la troisième et la quatrième période eucharistique, spécialement. Hein. Et puis dans quoi il y a période eucharistique, donc après la consécration, hein, nous attendons ta venue dans la gloire, et puis l'embolisme, nous attendons la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Hein. La référence au retour du Christ est très explicite. C'est une épouse qui aime, elle attend qu'il vienne. Et elle portera les fruits de l'amour qui la lie à l'époux. C'est ça la joie de l'épouse. Comme Adam a eu cette joie quand Ève lui a présenté l'enfant. Quand elle dit, Ève m'a donné mon enfant. Elle m'a donné mon enfant. Autrefois, on disait, mon épouse m'a donné 5 enfants. C'est très beau. Mon épouse m'a donné 5 enfants. Eh bien, le Christ peut dire, mon épouse m'a donné une foule immense que nul ne peut dénombrer. Et c'est la gloire de l'amour qu'il nous a donné, vous comprenez? Et cet amour, c'est quoi? L'amour du Fils pour le Père, en réponse à l'amour qui éternellement engendre le Verbe par le Père. Question. Donc c'est pour ça que je rêve de le voir, mais en un vrai film, un vrai, pas Apocalypse Now. Hein.
Oui,
je vous écoute.
On est tous des enfants, et il y a un mot de la langue française que nous n'aimons pas, et qui nous choque à chaque fois, qui est le mot prédestiné. Car on le comprend dans une mauvaise explication, qui est de dire, si on est prédestiné, notre avenir est écrit, et on n'est plus. Alors, je ne pense pas que ce soit le sens de la prédestination de ce qui est écrit dans le livre.
Ça, c'est la vision calviniste de la prédestination. Voilà. Où il y a une réprobation. Augustinienne. Ouais, c'est une fausse interprétation d'Augustin.
Mais... Je crois que mon père, on a tous réagi un petit peu comme ça. Donc...
Mais heureusement, je suis prédestiné. Si je n'étais pas prédestiné, je serais créé pour rien. Je n'aurais pas de vocation. C'est vous comprenez ça? J'aurais pas de vocation. Mais ce serait terrible. Je serais comme un chat. Bon, le chat, qu'est-ce qu'il a comme vocation? Il n'a pas de vocation personnelle de faire des petits chats, c'est tout. Mais c'est pas personnel, ça. C'est mignon, mais ça passe. Tandis que chacun de nous, c'est pour ça que nous sommes les seuls à porter un nom, au sens fort. Et donc, j'ai une destinée. Ça veut dire j'ai. Je suis appelé à être, c'est quoi cette prédestination? À être fils de Dieu. C'est d'être fils de Dieu.
C'est avant la naissance.
Oui,
oui, oui.
Ouais. Comment?
Et avant la naissance.
Oui, et avec les Éphésiens, nous sommes prédestinés de toute éternité à être saints et immaculés devant sa face. Vous vous rendez compte, si je n'étais pas prédestiné, ce serait horrible. Je serais là.
Au fond du hasard.
Du hasard, j'en sais rien, en tout cas. Je n'aurais pas de vraie raison de vivre. Or, si je n'ai pas de raison de vivre, moi, si je n'en ai pas, j'arrête de vivre tout de suite. Parce que si je n'ai pas de raison de vivre, c'est pour vivre demain et pour manger encore demain que je vais me battre aujourd'hui. Non. C'est pour ça que je me demande comment les gens vivent aujourd'hui. Pourquoi ils vivent? Parce qu'on peut vivre à la petite semaine, jour après jour. Ça fait moins mal de vivre que de se faire de se tirer une balle dans la tête, peut-être. Mais je n'ai pas de raison de vivre.
Personne ne vit comme ça.
Comment?
Personne ne vit comme ça.
Comment, si?
Non, les gens ne sont au clair avec eux-mêmes sur leur foi.
Ils sont?
Ils ne sont pas au clair.
Mais justement, c'est bien ce que je dis.
Tout le monde a la foi.
Ah non. Ah non, non, ça, détrompez-vous.
Tout le monde a la foi.
Non, non, non.
Les gens ne sont pas au clair avec eux-mêmes sur ce sujet. Ne vous battez pas.
Non, non. Et nous, des fois, nous croyons avoir la foi, mais nous ne l'avons même pas.
On peut penser d'abord que Dieu a créé un être sans foi.
Mais non, pas du tout.
Donc l'homme a la foi, non. Mais il l'oublie, il la détruit.
Vous savez, le péché peut être mortel parce que justement, je peux me couper de Dieu. C'est pas un avoir comme ça. C'est pas dans mes gènes.
Mais il y a deux sens au mot foi. J'ai l'impression que vous l'employez pas dans le même sens.
Ben je l'utilise au sens propre. C'était la foi théologale. C'est la foi qui sauve, pas la foi. La foi qui sauve.
Il y a une espérance.
Il y a une horde dans cette imagination de l'homme vers Dieu qui est inscrit par lui, parce qu'il a l'image de Dieu. Donc, en ce sens, sans qu'il ne sache, il est ordonné à Dieu. Voilà ce qu'on peut dire.
Oui.
Et c'est ce que d'ailleurs dit la lettre aux Éphésiens. Nous sommes là, pour le coup, prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Tout homme est prédestiné oui. à devenir. Mais il y faut ce que Paul appelle ici la foi. L'homme sera justifié par la foi, moyennant la foi, et là c'est ce que dit le frère, c'est la foi théologale,
oui.
dans le salut apporté par le Fils. Là, c'est un deuxième sens.
C'est pour ça d'ailleurs.
Il suppose une rencontre.
C'est pour ça d'ailleurs, inversement, par le mot négatif, je peux le voir. C'est pour ça que l'homme est si mal quand il s'évertue à vivre sans référence à Dieu. Il est mal, en fait. Au début, il croit aller bien, mais à la fin, il va mal. Et les gens vous le disent, d'ailleurs, je vais mal. C'est très étonnant. Si je n'étais pas ordonné à Dieu, je n'irais pas mal. Mais non.
Vous n'avez jamais rencontré de gens qui ne sont pas croyants, mais qui sont heureux sur la durée?
Si, c'est la situation la plus redoutable qui puisse exister, psaume 72. Psaume 72, c'est la situation la plus difficile.
Pour qui ?
Pour l'apôtre et pour l'homme, parce que apparemment il lui manque rien. Donc il ne cherche rien. Et alors le psaume dit, j'ai vu jusqu'au jour où je vis que tu les as mis sur la pente. C'est un anthropomorphisme en disant qu'en fait, ce bien-être qui se fout de tout le monde et qui fait que l'homme vit pour lui-même, il est très heureux, est un piège. C'est un piège. C'est la situation la plus périlleuse spirituellement. Parce que l'homme a l'impression qu'il a tout. Il ne manque rien. J'appelle ça la damnation soft. Je dis pour moi, c'est pas de mal, je suis pas monstrueux, va voir comme ça, non. Mais étranger totalement à Dieu, et donc totalement étranger à mon mystère. Je me réveille un jour, mort. Mais mort, parce que rien de ce que je suis n'est vivant, puisque je suis fait pour être une vivante ressemblance avec Dieu. Donc il n'y a rien d'une vivante ressemblance avec Dieu, je suis mort. Mais je suis fait pour vivant. C'est la situation la plus préoccupante. Et c'est un homme qui est difficile d'atteindre parce qu'il lui manque rien. Et donc, il se rétablit comme un chat. Toujours, il retombe sur ses pattes. Pour nous, la plupart du temps, les déséquilibres qui nous existent, des chocs, des épreuves, sont tellement salutaires. A posteriori, on le voit, quand on est dedans, mais en fait, on voit bien qu'il nous est, Dieu est venu nous chercher. Il vient nous chercher. Alors, peut-être à la fin, dans l'agonie, alors en plus, si on vous euthanasie et vous avez payé tout pour être. Alors là, vous allez. Oh, vous avez, c'est comme si vous vous empêchiez Dieu jusqu'au bout de vous approcher de vous. Oui ?
Est-il possible d'aimer les autres sans avoir la foi ?
Oui, je peux aimer les autres sans avoir la foi.
D'une certaine façon, il y a beaucoup de gens qui se donnent pour les autres. Et qui peut-être trouve un bonheur justement dans ce don, pas dans ce don qu'ils font aux autres.
Oui, oui.
Mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à avoir la foi.
Mais alors après, ça, c'est pas. Dieu seul sait qui a la foi et qui ne l'a pas. C'est pas à nous de juger, je peux juger personne. Nous ne pouvons juger personne. Mais. une philanthropie ou une simple amour n'est pas la charité. Vous voyez comment je participe au sacerdoce d'amour du Christ et comment je me laisse sauver. Parce qu'en dehors de ça, vous ne rejoignez pas la source de vie. C'est pour ça que là aussi, c'est un peu des équilibres affectifs, même spirituels, qui sont très difficiles à déloger dans le sens. Parce que ça peut être géré, et d'ailleurs pendant un temps, on pourrait dire que les laïcars étaient plus charitables que les catholiques qui, en sortant de la messe, médisent les uns sur les autres. Alors, ouais, c'était presque un sport, hein, d'être plus généreux que l'un, hein, etc. Donc on voit bien. Mais bien sûr, l'homme a une volonté et il a une intelligence, donc il est capable d'aimer, même humainement, enfin naturellement, oui. Mais normalement, c'est une pierre d'attente. C'est pas pour me glorifier que sans toi, Dieu, je peux aimer. Si j'entre dans cette logique, là, c'est très mauvais. Si je dis ça. Si j'aime sans connaître vraiment Dieu et sans le chercher, c'est une pierre d'attente. C'est des semences du Verbe, vous voyez. Un même état, mais il peut être orienté de façon différente. Mais ça, c'est un discernement du fort interne que Dieu seul peut faire, finalement. Voilà. Oui.
Merci. Merci.
Moi, j'espère que vous n'allez pas faire de cauchemar. Mais en tout cas, que vous ayez envie de regarder. Vous voyez, c'est une destinée passionnante que celle de l'être humain et dans laquelle, comme chrétiens, nous sommes au cœur. Donc, on ne peut pas dormir.